Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Nous sommes de plus en plus nombreux à en rêver, échapper au système, à cette maximisation du profit, partout, tout le temps, qui ravage nos sociétés et la planète. Mais le problème, c'est que rompre avec le mode de vie dominant exige des sacrifices que peu d'entre nous sont prêts à consentir. Donc, entre la pleine adhésion à ce système et la fuite, est-ce qu'il existe un chemin ? Ce texte, c'est la quatrième de couverture du dernier livre d'Alexandre Lacroix, qui est philosophe, romancier, qui est directeur de la rédaction de Philosophie Magazine et cofondateur de l'école d'écriture des mots. Et son livre parle du système et comment on peut s'en libérer, comment on peut ne pas être esclave de ce système. C'est une conversation nécessairement philosophique, puisqu'on parle avec un philosophe, mais passionnante, puisque vous allez voir qu'elle est extrêmement moderne. On va parler de thèmes sur lesquels on revient régulièrement sur le podcast, de la modernité, de la postmodernité, de l'hyperconnectivité, du bonheur. Bref, je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Est-ce que vous allez bien aujourd'hui?
Oui, très bien.
Question importante. Ouais. On va parler du système dans lequel on est et du changement de système. Et ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que vous commencez par l'expression d'une personne entre guillemets normale, c'est-à-dire qui doit faire face aux injonctions sur l'écologie, mais qui doit aussi faire face à la réalité de la vie, c'est-à-dire la réalité économique de la vie. De manière très concrète, comment un philosophe aborde cette question? En fait, ça m'intéresse de voir comment la philosophie, moi je crois beaucoup au rôle de la philosophie dans la réinvention de la société, comment un philosophe peut aborder cette question et pourquoi vous l'avez abordée dans le bouquin?
Alors, souvent, la pensée critique, la philosophie, quand elle est critique de l'état du système de production, de consommation, de la société, la sociologie de même, quand elle est critique et engagée, formule donc des diagnostics assez virulents sur l'état du monde actuel. Et ces diagnostics ne laissent entrevoir de solution qu'extrêmement radicale. C'est-à-dire que j'ai un souvenir comme ça qui est assez drôle. Je ne dirais pas qui, mais j'ai interviewé longuement, puisque je m'occupe de Philosophie Magazine, un intellectuel spécialiste du rôle des écrans et de l'aliénation aux écrans, qui fait une description à la fois sociologique et philosophique absolument parfaite du pouvoir que les écrans ont pris sur nous et sur nos existences. Et à la fin de vraiment de cette analyse brillante, il dit « Mais moi j'ai la solution ». Alors je dis « Ah oui ». Et je serais très curieux de la connaître. Il me dit « Bah oui, il suffit de renverser le capitalisme ».
Alors, ah oui,
voilà,
c'est facile.
Voilà, alors ça, je dirais que c'est le point de vue qui n'est pas le mien. C'est-à-dire que je trouve que là, on se paye de mots, on se moque un peu du monde, à laisser entrevoir en fait qu'un changement de système radical est imminent, voire même facile à opérer. Il y a un vrai danger dans cette posture, parce que en fait, on voit que le philosophe ou le sociologue peut se mettre en position de critiquer très radicalement la société actuelle sans rien proposer d'autre que, disons, des pistes qui ne pourraient avoir d'efficience ou d'effectivité que s'ils étaient écoutés par un éventuel gouvernement mondial. Parce que renverser le capitalisme, on sait très bien que si on le fait dans un seul pays, on va avoir un petit problème, c'est que les autres ne vont pas suivre, on va se retrouver isolés et ça va être complexe, donc il faudrait un gouvernement mondial. En fait, on voit bien que c'est à l'échelle planétaire qu'il faudrait appliquer ces idées. Moi, j'ai voulu proposer une piste complètement différente, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une substance, une consistance éthique, politique à son existence, quand par ailleurs, on a besoin de vivre, c'est-à-dire d'exercer un métier, donc d'être en d'avoir un pied dans le système de production tel qu'il est. Qu'est-ce qu'on raconte à la jeunesse? C'est un peu la même question. Qu'est-ce qu'on dit à ses enfants? On leur dit, attendez la révolution, c'est pour bientôt, il va y avoir un autre modèle qui sera plus juste, plus éthique que le nôtre. Il suffit de mettez-vous pour l'instant sur le côté, et puis vous verrez dans 20 ans. Donc, en fait, moi j'ai eu envie de proposer quelque chose que chacun puisse développer, appliquer dans son existence, à son niveau, et sans être dans un acte de sacrifice, de renoncement radical qui consisterait par exemple à aller élever des chefs dans le Larzac ou...
Voilà. Non mais c'est marrant, je rigole parce qu'en fait dans mon propre bouquin je dis ben moi j'ai aucune compétence à élever des chèvres et puis surtout j'ai pas du tout prévu de faire ça, c'est à dire que c'est pas mes compétences, j'ai pas prévu d'aller vivre à la campagne, donc du coup, et puis bon, tout le monde peut pas faire ça n'a aucun sens, donc ça serait pas, c'est même pas réaliste. Par contre, à son niveau individuel, réinventer, repenser, enfin plutôt, j'ai envie de dire déconstruire. Moi, j'utilise ce terme-là. Je ne sais pas si ça résonne chez vous, mais déconstruire un certain nombre d'idées reçues, et en particulier des idées qui sont liées au modernisme. Et j'aimerais bien qu'on parle du modernisme. Et ben ça, par contre, ça permet peut-être. Et je crois que c'est votre théorie aussi. Finalement, c'est ce que, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens dans le bouquin. Mais c'est peut-être mon prisme qui fait que je le vois de cette manière-là. Déconstruire pour pouvoir mieux vivre finalement le changement qui est en train d'avoir lieu et qui a lieu depuis un petit moment finalement. Non,
alors le livre est vraiment composé en deux temps. Il y a une phase de description de la modernité dans laquelle nous vivons, donc ça je vais y venir. Donc là je propose une analyse. J'ai l'impression qu'un certain nombre de concepts un peu classiques de la philosophie politique sont à revoir et je vais y revenir. Et ensuite je propose une méthode applicable par chacun dans son existence, en gros pour ne pas perdre son âme à l'ère de la technique. Hein, c'est ça l'idée. Alors, dans la description de la modernité que je propose, la réflexion sur la technologie joue un rôle assez important. Je propose de diviser la modernité occidentale en deux phases. Une première phase qui commence au XVIIe siècle, une date un peu pédagogique à retenir, ça pourrait être l'apparition du discours de la méthode, 1637, le cartésianisme. Donc première phase de la modernité qui a duré jusqu'en 1989, qui à mon avis est un peu l'année de cassure. C'est un peu pédagogique, hein, mais disons, retenons milieu du XVIIe et puis un changement important survenu il y a 30 ans. Alors, la première modernité, c'est une modernité dont le mot d'ordre est divisé pour régner. C'est-à-dire qu'elle se construit, ce que Descartes propose à ses contemporains et qui va être appliqué à grande échelle, c'est toute une série d'oppositions structurantes qui permettent l'action, qui permettent la maîtrise. Et ces oppositions sont d'abord l'opposition entre moi et les autres, le cogito cartésien, ce sujet qui dit « je pense donc je suis » après avoir fait une table rase et oublié tous les enseignements et toutes les conversations qu'il a eues, c'est quelqu'un qui oppose son intériorité, son moi, sa conscience aux autres, en fait, au reste de la société. Mais il n'y a évidemment pas que cette opposition, il y a l'opposition entre l'âme et le corps, entre la nature et la culture, qui va fonder un programme d'exploitation très intensif de la nature. Et puis, par la suite, dans cette modernité que j'appelle séparative, vont se mettre en place d'autres découpages, d'autres oppositions, comme par exemple la division du travail, l'enquête sur la richesse des nations d'Adam Smith, qui est le coup d'envoi en fait, de l'économie politique classique. au tout début, il donne un exemple qui est celui de la manufacture d'épingles pour exposer assez longuement son idée de la division du travail. Et donc la division du travail, à la fois en économie et pour la révolution industrielle, est fondatrice. On sépare les tâches, on les spécialise. Division du travail, séparation de la sphère privée et de la sphère publique, séparation du temps de travail et du temps de loisir à travers le salariat, pointage en usine qui délimite de manière très claire le temps de travail. En fait, on a toute une série d'oppositions structurantes qui se mettent en place. Et si vous êtes né avant 1989, ce qu'on vous a enseigné à l'école comme repères politiques, sociaux, ce sont ces oppositions. Or, 1989, je disais, c'est une cassure à deux niveaux. D'abord, évidemment, c'est l'effondrement du mur de Berlin et donc la réunification. Le monde était séparé en deux blocs, l'un communiste, l'autre capitaliste. Tout d'un coup, non, il y a une globalisation qui va s'accélérer avec des flux de marchandises, d'informations, de personnes qui s'intensifient énormément. Mais il y a aussi un autre changement qui survient et qui est important, c'est qu'un ingénieur informaticien britannique qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui travaille à cette époque pour le CERN à Genève, invente le web. Et donc, c'est le point de départ de la révolution technologique, de la révolution numérique qui va affecter l'ensemble de nos manières de vivre et d'agir. Alors, ce qu'on peut dire en préambule, c'est qu'on a basculé là et que toutes les oppositions que j'ai listées rapidement tout à l'heure ont été mises en crise par l'ère de la connexion. Si vous reprenez un par un ce que j'ai dit, l'opposition entre moi et les autres, si je me promène aujourd'hui seul en forêt, à travers mon smartphone, en fait, je suis atteint par des messages de mes collègues, de mes proches, de ma famille, des gens que j'aime, par des informations. En fait, mon flux de conscience, il n'est pas si indépendant que ça, il est traversé par des messages émis par les autres. Moi, j'appelle ça la télépathie assistée par les machines. L'opposition entre temps de travail et temps de loisir, c'est fini. Mmh. On l'a bien vu avec la pandémie, mais même avant, c'est-à-dire qu'on tend à faire des choses pour soi, au travail, sur écran. On va peut-être réserver une place au cinéma, au concert, un train pour son week-end, mais chez soi on va répondre à des mails professionnels parfois tôt le matin, tard le soir, donc décloisonnement. L'opposition entre nature et culture, elle est mise en crise, alors pour des raisons un peu différentes mais qui tiennent aussi à la progression de l'ère de la technique. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans l'anthropocène, l'humanité est devenue une force façonnante à la fois pour la géologie, pour l'atmosphère. Donc l'opposition entre nature et culture a vraiment du plomb dans l'aile. Sphère publique, sphère privée, ça c'est clairement fini. Quand vous publiez vous-même chaque minute ou chaque élément fort de votre vie privée sur les réseaux sociaux, en fait, on s'aperçoit bien que cet acte de publication ouvre votre vie privée sur le dehors. Et on est donc entré dans une modernité que j'appelle connective par rapport à la modernité d'avant 89 qui est séparative, dans laquelle une mise à jour de nos catégories est nécessaire. Voilà, c'est... Et donc là, le premier moment de mon livre, enfin la première moitié du livre, est vraiment occupé à présenter de manière aussi claire, aussi synthétique que possible, aussi simple que possible, les éléments, les axes de cette mise à jour. Je fais même des petits tableaux récapitulatifs, c'est un peu didactique, mais ce que je veux, c'est que vraiment quelqu'un qui se sent un peu paumé dans le monde actuel ait des repères conceptuels très clairs, qui se dise « Tiens, ok, d'accord, j'ai compris qu'on avait changé d'air ». Et avec ces quelques clés de lecture, des phénomènes qui pourraient paraître un peu bizarres, je sais pas, deux amoureux sont au restaurant, ils ont leur téléphone sur la table et peut-être que l'un va répondre à une sollicitation professionnelle juste avant de faire une grande déclaration d'amour. Enfin, toutes ces choses un peu étranges de la vie courante qui étaient inconcevables en fait il y a encore 20 ans ou 25 ans, c'est clair à mon avis quand on a posé les bonnes bases conceptuelles.
Et est-ce que d'accepter cette idée qu'on a dans cette modernité connective, ça permet de mieux appréhender la société dans laquelle on va finalement, qui va être plus écologique? Vous parlez, alors dans le bouquin, vous parlez de ce qui s'est passé en Australie. On pourrait en actualiser en parlant de ce qui se passe en ce moment à Vancouver. Comment, en fait... Parce que je crois que, enfin, et le bouquin commence comme ça, mais il y a vraiment cette injonction autour de l'écologie, et vous en parlez tout à l'heure, mais cette réalité autour de, faut bien gagner, ça coûte aussi, et puis finalement son travail, souvent il faut prendre sa voiture pour y aller, etc., etc. Donc c'est quasiment, je vis donc je pollue, quoi. Enfin, pour faire un clin d'œil entre guillemets à la phrase de Descartes, mais il y a vraiment ce truc-là dans nos sociétés en tout cas.
Oui, alors le livre ne porte pas que sur l'écologie, non. Hein, pas du tout. J'ai travaillé sur l'écologie, mais sur quelque chose d'assez particulier dans l'écologie, quelque chose qui n'est pas très connu, ce qu'on appelle l'esthétique environnementale. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Devant la beauté de la nature » sur en fait les types de relations sensorielles et émotionnelles que nous tissons avec nos environnements, avec les paysages, avec les forêts, avec les montagnes, avec les couchers de soleil. Là, la question, elle n'est pas uniquement écologique. Si je cite les incendies de brousse, les feux de brousse, qui ont dévasté l'Australie il y a 2 ans, mais en fait il y en a régulièrement et de plus en plus intense avec les vagues de canicule depuis une dizaine d'années en Australie. Mais on peut aussi bien citer dans l'actualité plus récente la vague de canicule au Canada avec ses températures records de 49,6 degrés qui ont créé des incendies et viennent d'éradiquer un village à l'heure où on parle qui a brûlé. Eh bien, là on a une illustration de ce que je disais sur la mise en crise de la séparation entre nature et culture. Pourquoi ? Parce que ces incendies ne sont pas des catastrophes naturelles. C'est plutôt... ces vagues de canicule sont la conséquence des activités humaines et des émissions, et largement des émissions de gaz à effet de serre, avec tous les effets dominos qui s'ensuivent. En fait, on a affaire aux conséquences naturalisées de l'action humaine. Et là, on est bloqué, parce que on sait comment faire pour lutter contre des humains. Une culture peut lutter contre une autre, ça s'appelle la guerre. Un pays peut déclarer la guerre à un autre. Entre humains, on sait parfaitement se faire la guerre. On l'a d'ailleurs montré abondamment pendant toute l'histoire. Mmh. On sait également se protéger des catastrophes naturelles. Ce qu'on ne sait pas faire, ici, c'est lutter contre les conséquences naturalisées de l'action humaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour stopper la catastrophe qui a l'air d'être naturelle, il faudrait agir sur l'humain. C'est une sorte de billard à deux bandes et c'est troublant. Et en fait, tant qu'on continue à penser comme dans le monde d'avant, comme dans la modernité séparative, en se disant « tiens, il y a nature et culture », on est complètement bloqué. On ne peut pas concevoir une piste d'action. Donc voilà, là c'est vraiment une illustration, je dirais, claire. De la difficulté qu'on a si on veut appliquer les catégories d'avant 1989 au monde du 21e siècle. Voilà. Alors ensuite, moi, dans ce livre-là, ma question, elle est plutôt existentielle qu'écologique. La question que je me pose, c'est que comment on va faire pour échapper à une forme d'aliénation par cette technostructure ? Comment faire pour ne pas devenir un simple rouage de ce système ? Par système, j'entends ce système de production et de consommation largement relayé par la technologie ou les technologies connectées. Il y a une pente qui est dangereuse pour chacun de nous, existentiellement, me semble-t-il, c'est que la vie ne soit plus qu'une succession de temps d'écran, avec des temps d'écran travail. Alors, temps d'écran travail, on est sur en réunion Zoom, sur un fichier Excel, sur un Word, sur sa messagerie. Et puis quand on a terminé ça, on passe au temps d'écran loisir. Et là, on va regarder un match de foot, jouer à un jeu vidéo, aller sur les réseaux sociaux, aller sur Netflix, s'acheter des choses sur Amazon. Et en fait, on s'aperçoit que très vite, ce système actuel, cet état du monde actuel peut nous emmener dans une espèce de circonstance où c'est pas tout à fait la Matrix, mais enfin quand même, on est branché à un écran, connecté en permanence. En fait, on n'est plus qu'un rouage d'un système de production-consommation, sachant que quand on est dans le temps d'écran travail, on produit, et quand on est dans le temps d'écran loisir, on consomme. On peut dire, mais c'est formidable, c'est génial, on se débranche, on est assis, qu'est-ce qu'on perd ? À mon avis, on perd pas mal de choses quand on se laisse happer. Notamment, on perd la possibilité de parler à la première personne du singulier, d'avoir des pensées autonomes, d'avoir des pensées et des rêveries qui ne sont pas faites pour être publiées et partagées, qui ne sont pas des réponses à des messages, d'avoir des pensées complexes et divagantes. Le pas de côté intérieur, le pas de côté mental n'est possible que quand on s'écarte un petit peu de cette méga-machine ou de cette technostructure. Donc ça, c'est une première chose qu'on perd. À mon avis, on perd aussi une certaine forme de rapport à l'attente et au désir, parce que ce que fait la technostructure actuelle, c'est qu'elle capte tous nos comportements d'impulsion. C'est le régime de la satisfaction en un clic. Vous avez envie d'une pizza, vous pouvez l'avoir tout de suite. Vous avez envie d'un partenaire sexuel, vous pouvez l'avoir tout de suite. Vous avez envie d'un livre, vous pouvez l'acheter tout de suite. Mais vous n'attendez plus, vous ne désirez plus vraiment. C'est un circuit très court entre le besoin ou le désir et sa satisfaction, et ce circuit très court, le temps d'une recherche Google, quoi, quasiment, pour avoir sa satisfaction, ça ne produit que des satisfactions, en fait, brèves, un peu ternes, de courte durée. Et donc, on reste comme ça, complètement déboussolé. Et puis surtout, je dirais, en fait, à l'issue de cette histoire-là, c'est l'auto-exploitation. C'est-à-dire que, rivé à nos écrans et à nos machines, on ne cesse d'ajuster des moyens à des fins, en fait, de vouloir maximiser son profit, performer, produire, être joyeux dans sa consommation. Mais en fait, on est complètement pris dans une logique externe à nous qui nous traverse et qui nous réquisitionne. Et ça, c'est pas un enjeu écologique, même si ici et là, je fais allusion à l'écologie dans ce livre, mais c'est vraiment un enjeu existentiel sur le type de vie qu'on a envie de mener au XXIe siècle, sur le type aussi de modèle qu'on a envie de donner aux enfants. Moi, j'enseigne depuis toujours, puis j'ai 5 enfants, mais j'enseigne depuis 1998 à Sciences Po, puis j'ai aussi créé une école d'écriture. Je suis très attaché à la question de la transmission et de l'enseignement. Et donc, qu'est-ce qu'on raconte à soi-même et aux jeunes sur la vie digne d'être vécue? Voilà, ça, c'est vraiment mon sujet. Comment ne pas être esclave du système? Ça traite de l'envie d'échapper à une aliénation qui serait aussi une forme d'auto-exploitation radicale.
Mmh. Ouais, ça peut penser à Orson Welles, entre autres, mais effectivement. Ouais. Et vous en parlez dans le livre, mais quelle posture on peut adopter pour justement sortir? Parce qu'il y a différentes postures qu'on voit très facilement, type réactionnaire, c'est-à-dire je bloque et je reste dans le monde d'avant, ou alors hyper militant et je suis très 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 engagé. Est-ce que ça, c'est les deux bonnes postures, ou est-ce qu'il y a une posture intermédiaire? Comment, en fait, je peux naviguer et justement ne pas être esclave du système en ayant conscience, tout en ayant un pied dedans malgré tout? Parce que c'est ça, finalement, la question pour la majorité des gens, je pense. Et moi, je suis totalement d'accord avec vous sur l'idée que l'écologie, c'est une partie du problème, parce que la problématique, elle est beaucoup plus complexe, elle est dans nos modes de vie. Donc, en fait, c'est pas qu'une question écologique, c'est une question de rapport au vivant. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, mais et donc de rapport à soi, par définition.
En tout cas, sur les stratégies ou les attitudes qu'on peut avoir par rapport à l'état du monde actuel, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux erreurs en miroir. Il y a la posture de celui qui dit que la solution est dans la déconnexion. En fait, c'est du dandysme. C'est une forme de réflexe aristocratique, de mépris pour les classes laborieuses, parce que la réalité du terrain, c'est que soit vous avez un patrimoine, vous avez de l'argent, ou vous êtes à la retraite, et alors tant mieux pour vous. Et bon, vous n'avez pas besoin de gagner votre vie, vous pouvez vous déconnecter. Vous pouvez aussi vous déconnecter en optant pour un mode de vie alors très particulier, hein, par exemple faire l'estive avec les moutons dans les alpages. Et là, vous pouvez vous déconnecter quelques mois, mais enfin, ce sont des modes de vie très très originaux et singuliers. Mais en fait, pour ceux qui ont besoin de travailler, il va falloir avoir commerce avec la société telle qu'elle est structurée et avec la technologie. Même quelqu'un qui a un métier, on va dire, nature, comme, je sais pas, guide de haute montagne, pour avoir ses clients, il va sans doute avoir une page Facebook, un site, il va utiliser son smartphone, il va communiquer. En fait, on est imbriqué, on en a besoin pour notre travail. Et quand vous regardez les files de migrants provenant de Syrie ou d'Afrique subsaharienne, vous voyez que l'objet le plus précieux qu'ils ont sur eux, c'est leur smartphone. C'est pas un gadget technologique, le smartphone. C'est vital. C'est vital parce que c'est le lien avec les proches. C'est la possibilité de recevoir ou d'émettre des transferts d'argent. C'est la possibilité de trouver des opportunités de travail, de se repérer dans l'espace. En fait, c'est un outil de survie. C'est pas un gadget qui est venu s'ajouter à nos existences. Et donc, c'est ça, le monde actuel. Alors, donc, la déconnexion, c'est nécessaire, si vous voulez, de se déconnecter par hygiène, comme on va dire, ben c'est nécessaire de dormir. C'est-à-dire, il y a une hygiène, oui, en vacances ou le week-end, c'est bon de passer un moment déconnecté, mais en fait, on va avoir besoin de la connexion pour travailler. Donc. Et l'autre erreur, évidemment, ce serait un enthousiasme technophile délirant qui consisterait à penser, c'est un peu, on l'a vécu un peu quand on parlait de la Startup Nation en France, c'est-à-dire le solutionnisme par la technique. Et cette idée que disons, le numérique ou le digital vont apporter des solutions à tous les problèmes sociaux, économiques, sécuritaires, sanitaires. Ce qui est dangereux dans cette position-là, c'est que c'est une position d'enthousiasme ou d'optimisme technophile qui se prive de la possibilité de considérer qu'il y a un danger totalitaire dans la technique. Ce qui est difficile à penser dans le monde actuel, c'est la fin des oppositions, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais notamment le fait que le web, partout sur la Terre, est à la fois le plus immense espace de liberté d'expression jamais créé, redouté par les régimes autoritaires, voire proto-totalitaires, si on pense à la Chine, redouté, très difficile à juguler, mais en même temps que c'est un véritable espace de liberté, de sédition, de subversion, de critique, d'organisation aussi des mouvements de rue ou des mouvements politiques, c'est le plus grand outil de surveillance jamais mis au point. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que c'est les deux. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui, avant, c'était clair, il y avait d'un côté l'espace public, et puis de l'autre, peut-être, un pouvoir centralisé qui cherchait à vous espionner. Ben là, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois la bibliothèque qui va vous émanciper par le savoir qu'elle vous permet de découvrir, et le flic qui est posté derrière vous et qui surveille chacune de vos actions. Et donc, ni l'enthousiasme technophile, si vous voulez, ni la déconnexion ne sont une solution. De la même manière, je dirais, toujours pour essayer de raisonner en dehors des oppositions classiques ou repérées, on a un imaginaire politique qui est très fondé sur l'opposition entre les collabos et les résistants, qui nous vient de la Deuxième Guerre mondiale, mais cette opposition elle-même, elle est très adossée à une forme de séparation religieuse entre les heureux et les damnés, ou les élus et les damnés, entre la cité des hommes, qui serait une cité où règne la poursuite de l'intérêt, le matérialisme, le désir, et puis la cité de Dieu, qui serait la cité des bienheureux, une cité de lumière. Et donc, ce que ça tend à induire chez les gens, c'est ce type d'opposition ou cette manière de raisonner, c'est que soit ils vont être des collabos du système, enfin rentrer dans le système, perdre leur âme, accumuler les compromis, etc. Soit, au contraire, il faut qu'ils soient des saints.
Des êtres purs.
Des êtres purs. Et on voit bien que les deux sont insoutenables et impossibles. Alors moi, ce qui m'intéresse, évidemment, je vais y venir, c'est la voie médiane. C'est-à-dire de dire, on peut sauver son âme à l'ère de la technique. On peut avoir une vie éthique sans être un saint et sans être impur. On peut donner une structure, une cohérence, une vraie portée éthique à son existence, sans être un guerriero, sans être un saint, sans être un poète maudit, en étant, père de famille, salarié, fonctionnaire, en étant à sa tâche, en fait, en étant assez humblement à sa tâche, voilà.
Et comment on fait ça, alors? Parce qu'en fait, je pense que concrètement, les gens se disent, super, hein.
Non, mais le préambule est nécessaire, parce que la solution que je vais vous proposer... La solution que je vais vous proposer, elle est hyper simple. C'est-à-dire, alors je vais me lancer, je vais vous expliquer ce que c'est. Moi, c'est une solution que j'appelle le post-utilitarisme. Le système tel qu'il est construit, j'ai beaucoup parlé de la technologie, mais il y a une philosophie de l'action ou une éthique qui infuse dedans implicitement, qui est l'utilitarisme. L'utilitarisme, ça a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par Jeremy Bentham, et au début de ses introductions au principe de la morale et de la législation, c'est son grand livre, Bentham dit que le but de la vie, c'est de maximiser son utilité, que toutes les autres morales sont hypocrites ou insincères. Lui, il pense à la morale religieuse, mais et donc maximiser son utilité, le mot est pas très très clair à l'époque de Bentham, il l'est toujours pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il entend par là? Lui, il entend probablement le plaisir, la satisfaction, mais au sens assez physique du terme, très matérialiste. À sa suite, John Stuart Mill, qui est l'autre grand utilitariste, entend plutôt le bonheur. Mais les économistes qui se sont beaucoup intéressés à ce modèle de pensée, qui l'ont décliné dans leur propre modélisation, vont entendre profit. Hein. Vous voyez, utilité, profit, bonheur, plaisir, on sent bien que c'est pas tout à fait la même notion, mais ce qui est derrière, c'est l'idée d'une maximisation. Voilà, c'est ça. Alors, tous nos outils techniques nous proposent d'atteindre cet objectif. Ce sont des outils en fait, d'optimisation. Par exemple, vous avez sur votre smartphone un logiciel de navigation. Vous allez gagner du temps parce que vous allez optimiser vos trajets. Gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Gagner des opportunités, c'est maximiser votre profit. En fait, toute la technostructure, c'est une sorte d'infrastructure qui nous sert à être gagnant. Par la raison, par la rationalité, dans cette course à la maximisation du profit. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne va pas pouvoir en sortir complètement de cette histoire-là. On ne va pas renverser le capitalisme tout de suite, hein, ni l'utilitarisme. C'est trop profondément ancré dans nos process, dans nos contraintes, dans les tableaux d'amortissement des emprunts. C'est trop fortement ancré pour qu'on s'en dégage comme ça complètement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est devenir post-utilitariste. Et l'idée est la suivante. Un post-utilitariste, c'est quelqu'un qui maximise son profit, certes, mais sous contrainte d'idéal. Je pose d'abord un idéal et un seul. Je décide pas d'être intégralement vertueux, je vais pas y arriver. Je me donne un idéal, une visée, une boussole, un or. Un idéal qui doit quand même correspondre à un désir profond que j'ai en moi. Et une fois que j'ai posé cet idéal, ben je maximise mon profit comme tout le monde. Ça veut dire que je suis pas désintéressé. Mais je ne vais jamais confondre, j'allais dire les serviettes ou les torchons, c'est-à-dire je ne vais jamais faire en sorte que cette logique du profit, de la rationalité, vienne renier ou m'amener à renoncer à mon idéal. Je garde mon or. Je vais prendre un exemple. C'est un exemple amusant parce que c'est un exemple qui est dans le livre. Mmh. C'est l'exemple d'un menuisier. Et j'ai eu, il y a 2 semaines, un menuisier qui m'a écrit une très belle lettre en me disant c'est exactement ce que vous racontez, c'est exactement ce que j'ai vécu, j'ai fait ce choix. Alors le choix, quel est-il? C'est un menuisier par exemple peut être un utilitariste standard. À ce moment-là, il va vouloir vendre le maximum de meubles avec la plus forte marge de rentabilité. Ok, utilitariste standard, on dira c'est un homme qui a réussi, il aura peut-être une belle bagnole, une villa, etc. Ok. S'il est post-utilitariste, il va se dire « Non, moi j'ai une visée, j'ai un désir. » Par exemple, un désir d'ordre esthétique. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est une certaine excellence dans le design, dans l'ébénisterie, dans la restauration des meubles anciens. Je vise ça, et après je cherche à avoir des clients, j'ai une comptable, je paye mes impôts, je cherche à maximiser mon profit. Ou alors je vais dire « Non, c'est pas les meubles qui m'intéressent, en fait, c'est les relations humaines. » Moi, j'ai envie qu'il règne une certaine atmosphère dans mon atelier, ou alors de me comporter d'une certaine manière avec les collègues ou avec les jeunes. J'ai envie qu'il y ait un aspect de transmission, j'ai envie d'un engagement syndical, j'ai envie... Et c'est ça qui va donner, va me donner envie de me lever le matin quoi, pour aller travailler, c'est cet aspect relationnel du travail. Je pense que pour beaucoup de gens, l'aspect relationnel dans le travail compte beaucoup, plus que le produit. Et ça va me m'aiguillonner. Et puis par ailleurs, je vais avoir une logique économique, une logique cohérente et utilitariste. Ça peut être aussi un objectif, puisqu'on en a parlé, hein, ou un idéal d'ordre écologique. Et là, je vais me poser des questions sur la filière d'approvisionnement du bois, puisqu'il y a un gros problème autour des bois exotiques qui proviennent de la déforestation et qu'il y a une réflexion aujourd'hui nécessaire sur ces questions. Donc, vous voyez, une fois qu'un idéal est posé... Mais il ne faut pas que ce soit un idéal gadget, parce que sinon, vous allez, à la première occasion, un peu tentante, vous allez le mettre de côté. Mais si c'est quelque chose qui vraiment, pour vous, vous porte, ça donne un sens au moment pénible que vous passez sur la comptabilité ou avec votre banque, etc. Ça donne un sens à votre action quotidienne. Ça illumine en quelque sorte votre activité. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'être dans un renoncement intégral ou dans une posture d'austérité intégrale. Et vous voyez, c'est très très simple en fait. La solution, si je la résume et que je la contracte, c'est maximise ton profit, d'accord, mais sous contrainte d'idéal.
Et en même temps, c'est simple, mais ce que je constate autour de moi et voilà, c'est des gens qui cherchent beaucoup, qui sont dans la quête du sens. Mmh. Et qui se disent, En fait, le truc, c'est qu'on a vite fait de se faire happer par ce que la société nous dit de faire ou ce que la société nous dit de ce qui est bien ou pas bien. Typiquement, vous parliez tout à l'heure de bonheur et de succès et en fait, on a vite fait d'associer le bonheur au succès, à l'accumulation, en particulier de biens, de pouvoir et d'argent. Et même si, évidemment, pour la majorité des gens, bah, ils savent bien que ça ne peut pas être que ça, néanmoins, vous le disiez, quelqu'un qui vend une boîte X milliers, X millions d'euros, on va dire « Ah, tiens, ça c'est du succès, il doit être heureux. » Parce qu'on associe aussi l'argent avec le bonheur. Donc, en fait, on peut se faire happer par ce rêve qui ne nous appartient pas parce qu'il est à l'extérieur de nous, mais en même temps, il est tellement présent partout que du coup, c'est difficile de s'en échapper quand même. Et de l'autre côté, de se dire « Mais attends, mais moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ?» Et là, les gens sont paumés parce qu'en fait, on nous a tellement guidés sur « il faut faire la bonne carrière, avoir les bons enfants, aller dans le bon endroit pour qu'ils aillent à la bonne école, etc. etc. » que j'ai la sensation que les gens ne savent plus très bien... savoir définir ça. Et puis aussi, comme on est dans une société, malgré tout, où on voit bien qu'il y a une crise écologique majeure, je crois que les personnes sont un peu paumées sur où est-ce que je me positionne dans tout ça. Y a un petit problème de projection. Hein. On était beaucoup dans une société... alors là, pour le coup, je vais reparler de ma fédéline de la postmodernité, mais dans la modernité où on était sur un triptyque d'individualisme, de capitalisme et de projection, de projet, on va dans un, alors lui c'est sa théorie en tout cas, dans une sorte de postmodernité où on est dans le collectif, la nature et le temps présent. Donc du coup, il y a aussi ça qui... Et j'ai vraiment la sensation que par exemple cette année et demie qu'on vient de passer pendant la crise du Covid, et ben, c'est simplement... se réapproprier, se dire en fait le collectif c'est vachement important parce que ce qui compte c'est pas forcément ce que je vais acheter mais vraiment les liens que j'ai avec mes voisins, avec les personnes âgées autour. Ce qui compte c'est pas forcément la projection parce qu'en fait je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter cette crise mais ce qui va compter c'est le temps présent et qu'est-ce que je peux faire maintenant. Et vraiment c'est j'ai la sensation que les gens sont perdus entre, pour revenir sur une question un peu plus précise, mais sont perdus entre les projections de la société et ce qu'on a vraiment envie de faire, et puis aussi ce brouhaha finalement dans lequel les gens sont un peu perdus. Je ne sais pas si ça résonne.
Oui, alors il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. La première chose, c'est sur la quête du profit ou la quête de l'argent. Moi, je me souviens un jour, enfant, d'avoir demandé à mon père « Écoute, papa, combien d'argent il faut gagner dans sa vie ?» Il faut gagner combien ? Et il m'a fait cette réponse extraordinaire. Il m'a dit assez pour ne jamais faire ses comptes. Alors, il voulait pas du tout dire richissime. Il vivait simplement. Hein. Il voulait simplement dire que, en fait, je crois que c'est vrai. L'argent, quand on est aux abois, que nous et le moi est un cauchemar, est une source de d'angoisse. Qu'on ait à découvert pendant toutes les 10 derniers jours ou les 15 derniers jours du mois, l'argent devient obsédant en fait. Et c'est un vrai problème, ces moments de précarité. En fait, moi je me suis engagé tardivement dans la vie active, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais uniquement auteur, écrivain, je vivais à la campagne avec peu de moyens. Et je me souviens que bizarrement, l'argent s'immisçait dans mes pensées et cette anxiété en fait du lendemain, du mois suivant, de la facture EDF, etc. C'était vraiment une sorte de pollution mentale qui m'empêchait presque de créer. C'est-à-dire, enfin, j'avais pas de sérénité par rapport à ça. Et voilà, j'ai eu assez tôt aussi un enfant à 25 ans. Et il y avait comment je vais lui acheter des vêtements, des chaussures. Enfin, ces questions se posaient. Et donc, l'argent devient obsédant, si vous voulez, quand vous êtes dans le manque. Mais assez vite, si les besoins essentiels sont satisfaits, il devient quand même possible de s'intéresser à autre chose. et quand même, c'est là que la vie se déploie, prend du relief et de l'intérêt, et que la question du sens se pose. C'est pas simplement une question pour estomac plein, le sens, mais on voit bien qu'il faut être sorti d'une certaine urgence et d'une certaine nécessité de veiller à la survie, pour commencer vraiment à se poser cette question du sens. C'est pas une question simplement de luxe, parce que je pense que, en fait, aujourd'hui, pour la classe moyenne dans nos sociétés, cette question du sens va se poser très intensément. Et on voit beaucoup de personnes, au moment notamment de s'engager dans la vie professionnelle ou dans la vie active, on voit beaucoup de gens refuser un poste avec un meilleur salaire pour aller vers un métier qui a plus de sens à leurs yeux, soit du point de vue éthique, soit du point de vue de sa finalité, soit du point de vue du projet dans lequel il s'inscrit. C'est une attitude qu'on voit très couramment, qui est intéressante. Donc ça, c'est le premier point, c'était sur l'argent. Et le post-utilitarisme, c'est une méthode assez simple pour dire, tiens, on peut peut-être essayer de ne pas perdre de vue sa propre survie, tout en gardant intact son idéal. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Hein, mais ça fait du bien de le dire.
Exactement.
Il y avait une deuxième dimension dans cette intervention. Que s'est-il passé avec la pandémie ? Ce qui est assez curieux, en tout cas pour moi comme auteur, c'est que mon livre était écrit avant la pandémie. Et je n'ai pas changé une ligne. C'est-à-dire que l'événement, à mon sens, n'a pas du tout créé un monde nouveau. Il nous a mis sous les yeux, de manière extrêmement violente, des dynamiques qui étaient déjà à l'œuvre. Et notamment, cette question de la vie qui pourrait devenir une succession de temps d'écran. Quand je vous en ai parlé tout à l'heure, je crois que ça résonne assez fortement avec ce que les gens ont vécu pendant les confinements. Ce risque que la vie, en tout cas pour les 60% de salariés, selon la Fondation Jean Jaurès, qui ont maintenu leur travail à domicile, donc ceux qui n'étaient pas au front, comme on disait, c'est la vie a tendu à devenir cette succession de temps d'écran. L'interpénétration de la fusion du travail et du loisir, c'était quelque chose qui avait débuté auparavant et qui s'est accru. On s'est mis à comprendre qu'en télétravaillant, on pouvait peut-être aller à la piscine ou faire un jogging ou de temps en temps regarder un film l'après-midi, en semaine, mais qu'on allait aussi travailler très tard ou très tôt le matin, le week-end. En fait, on a même compris que les espaces pouvaient s'interpénétrer et que le salon, la chambre à coucher, etc., pouvaient devenir des bureaux ou des salles de réunion. Donc, ce qu'a fait la pandémie, c'est qu'elle a augmenté, en fait, la visibilité de certaines dynamiques qui sont liées à la modernité connective. C'est pour ça que moi, j'ai rien eu à changer. C'est ce que j'avais écrit. En fait, j'ai rajouté deux lignes, quoi, pour dire, voilà, vous voyez, c'est ça, ça s'est produit. Et elle a quand même eu ce mérite de nous montrer ce que cette situation peut avoir de cauchemardesque. C'est-à-dire cette situation où chacun est enfermé chez lui avec un écran, en train de maximiser son profit, c'est-à-dire en train de calculer sur la base des données disponibles et des informations qu'il reçoit, sur l'état de ses collègues, de sa société, de sa boîte, des clients, etc. Maximise, j'envoie des messages, je réponds aux questions, j'agis, j'essaye de tenir mes objectifs et je suis tout seul. J'ai plus de vie sociale, j'ai plus de vie culturelle, je ne rencontre pas de nouvelles personnes, je ne peux pas voyager. Mais je suis dans un monde hyper connecté et hyper efficient par ailleurs. Ben c'est intenable. En fait, on s'aperçoit que ce monde-là, c'est une dystopie. C'est une sorte de dystopie de science-fiction. Et moi, j'ai l'impression que loin d'être le moment, ça va pas être très drôle. Il y a plusieurs raisons qui laissent penser que la période qui s'ouvre va être difficile. Il y a un état d'endettement des entreprises qui est préoccupant. Il y a des injections de liquidités massives dans l'économie qui devraient générer des tensions inflationnistes, même si ce n'est pas encore le cas. Il y a toute une série de choses qui laissent penser que... et puis, il va bien falloir rembourser ces plans de relance, à moins qu'on s'en sorte par l'inflation. Mais si on s'en sort par l'inflation, il y aura d'autres problèmes. Enfin, on voit bien que ça va être tendu. Et que, par exemple, il y a une étude qui est parue dans le Guardian, qui a été répercutée dans le Guardian il y a quelques semaines, qui montrait que 2021 allait être une année record pour les émissions de carbone et de gaz à effet de serre, parce que tous les pays émergents ou à industrie lourde se mettent en rattrapage pour ne pas sombrer. Donc on essaye de rattraper l'année perdue, l'année quasiment blanche. Donc il ne faut pas croire du tout qu'on est rentré dans un monde rose. À mon avis, on est juste rentré dans une époque intéressante parce que les défauts du monde actuel sont devenus évidents. Voilà. C'est des choses qu'on savait mais qu'on ne voyait pas. Maintenant, on sent le danger. On voit où le système voudrait nous emmener. seul chez soi, sans relation affective, charnelle, sans contact, sans baiser, sans poignée de main, sans danse, sans sensualité, sans possibilité de créer de nouveaux projets, juste à ajuster par sa propre intelligence des moyens à des fins, des réponses à des questions, envoyer des injonctions ou répondre à des injonctions de la part des collègues. Bon, qui veut de cette dystopie ?
C'est marrant, je ne vous l'ai pas dit, mais mon bouquin s'appelle « Insoutenable paradis ».
Mais c'est ça.
Donc ça résonne pas mal avec ce que j'ai pu écrire moi-même. En fait, ce que vous décrivez, ça me fait beaucoup penser à la manière dont les animaux sont élevés, je ne sais pas si on peut dire ça, industrialisés. Tous ces animaux qu'on mange, que ce soit des cochons, des poules ou autres, c'est exactement le sort qu'on leur fait subir. Et finalement, c'est vrai que j'avais pas forcément eu cette image en tête, mais c'est vrai que ce qu'on est en train de faire aux humains, c'est précisément ça. Et c'est marrant, c'est pour moi, alors pour le coup, le sujet de l'écologie me porte pas mal, pas tant. Enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment la survie du vivant, en fait, tout simplement. C'est pas... Et du coup, c'est pour ça que moi, j'aime pas quand on parle d'écologie punitive, parce que ce que je dis, c'est oui, c'est vrai, sans doute, mais la société dans laquelle on vit, elle est aussi extrêmement punitive. On peut pas dire qu'on passe d'une société parfaite, incroyable, à une société punitive, c'est pas vrai. Parce que la société dans laquelle on vit, enfin, est-ce que vous décrivez, je suis pas certain que les gens se disent, ah ben ouais, mais c'est tellement super, parce que quand même, je peux prendre, je sais pas, m'acheter XY truc sur Amazon.
Moi, j'ai l'impression que ça, c'est plus mon axe de travail sur l'esthétique environnementale qui va guider ma réponse. Mais j'ai l'impression que le discours dominant de l'écologie politique a des faiblesses internes. Et si on est aujourd'hui dans une situation où tout le monde a conscience qu'il y a une urgence écologique, qu'il y a un réchauffement climatique préoccupant, etc. Mais si dans cette situation de prise de conscience quand même globale, généralisée, planétaire, il n'y a nulle part de gouvernement élu qui soit vert ou écolo. C'est à la fois le résultat du jeu des forces économiques et des lobbies, mais aussi le résultat de certaines faiblesses ou de certains problèmes qui sont intrinsèquement liés au discours de l'écologie politique. C'est pas qu'il soit punitif, c'est qu'à mon avis, il y a un triple problème dans le discours traditionnel ou dominant de l'écologie politique. Premier problème, un niveau de technicité qui est assez élevé. C'est-à-dire que si vous voulez lire un rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental de recherche sur le climat, vous avez des taux de composition chimique de l'atmosphère, vous avez des scénarios, des chiffres. En fait, ça ressemble beaucoup à de la littérature technocratique. Et donc, ces chiffrages, ces estimations, ce niveau d'expertise nécessaire pour comprendre les enjeux, vraiment les saisir. Bon, pour le grand public ou pour la diffusion d'un message politique à caractère enthousiasmant, c'est un problème. Deuxième chose, je dirais, au-delà de la technicité, faire de la politique, c'est configurer un avenir désirable. Et si vous dites aux gens, enfin, si vous avez un discours qui laisse penser qu'en 2100, la Terre va être un four avec une sorte de boue radioactive à sa surface et quelques scorpions qui survivent, il n'y a pas d'avenir désirable. En fait, vous n'emmenez personne politiquement. Vous pouvez imaginer que les gens vont voter pour vous, parce que là, on parle de vote et de politique, si jamais vous ne les aidez pas à se dire qu'avec vous, il y a un avenir, y a un avenir souhaitable qui se profile. Il y a une amélioration du présent qui est possible. Vous n'emmenez personne. Et puis la dernière chose, je dirais, c'est la culpabilité. Enfin, il n'y a pas que l'affect de culpabilité, il y a l'affect de peur. Mais le fait de culpabiliser le consommateur et le producteur ou le salarié d'une entreprise pour son comportement, en plus de culpabiliser les classes populaires parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'acheter, la nourriture bio qui est plus chère.
Par exemple.
Ou la super voiture optimisée, hybride ou je sais pas quoi, ou la Tesla, qui est elle-même polluante pour d'autres raisons. En gros, si vous envoyez la culpabilité à plein seau dans la société, ne vous étonnez pas que les gens ne vont pas voter pour vous. Et donc, comment faire pour contrer ses défauts, moi, ma piste, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire, c'est de dire qu'il faut reprendre les choses complètement à l'envers, dans une autre direction, et plutôt de parler du fait que nous aimons la nature, nous aimons et nous sentons un besoin viscéral en nous, nous aimons les forêts, les espaces, l'air pur, la possibilité de se baigner. Nous avons besoin de retrouver ces milieux non artificiels, non urbains. C'est nécessaire à notre équilibre physique et psychique. En 1900, on pouvait se baigner dans toutes les rivières sur toute la planète, quasiment. Aujourd'hui, c'est pas possible. Peut-être que dans quelques décennies, on pourra pas se baigner en mer, ou ce sera dangereux. Est-ce que ça, ce serait pas un deuil énorme ? Je dis ça au seuil de l'été. Mais est-ce que ça, ce serait pas un deuil énorme pour chacun de nous ? Et là, si vous commencez à parler aux gens de ce qu'ils aiment, de leur amour, et à mon avis, il est vrai, il est sincère, il est profond, de leur amour des paysages, de leur amour du vivant, vous parliez du vivant, de la vie animale sauvage, de leur fascination et admiration pour la beauté de la vie animale sauvage, de leur amour du végétal, de leur passion pour les arbres, ou de ce que ça leur fait d'avoir des arbres dans leur champ de vision ou autour de chez eux. Là, tout d'un coup, vous parlez d'esthétique, vous parlez d'émotion, vous parlez de sensation, vous parlez d'existence, et de quelque chose qui mobilise. C'est-à-dire, tiens, mais oui, j'ai envie d'agir pour protéger ce que j'aime. C'est par l'amour, en fait, et le désir que je vais m'en sortir, pas par la culpabilité et la peur.
J'aime beaucoup cette réponse, pardon. J'étais parti dans mes pensées, mais en même temps, je trouve ça super beau, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a ça, et puis moi, je pourrais quasiment rajouter un quatrième point, qui est que, quelque part, je pourrais rajouter un quatrième point, qui est quelque part la manière dont l'écologie politique prend vie, je pense par exemple à la mairie de Paris, elle oppose aussi, parce que même si les Parisiens adorent faire du vélo, et c'est génial, les voies de vélo, enfin c'est super pour les gens qui vivent dans Paris, mais les gens qui vivent dans Paris, ils vivent grâce, en fait une ville c'est principalement des flux, donc c'est beaucoup de gens qui transitent dans Paris, et des gens qui viennent souvent de loin, en fait. Et pour eux, pour le coup, eux, ils les détestent, ces voies de vélo, parce qu'en fait, ce que les Parisiens ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a des gens qui font 2 heures, 3 heures de bouchon pour pouvoir venir bosser pour les Parisiens à des prix très faibles. Je pense aux femmes de ménage, je pense tous les gens qui ont des boulots, vous disiez, au front, mais donc des jobs qui, en général, ne sont pas dans le tertiaire et qui sont payés un salaire très faible. Et avec ce salaire très faible, ils peuvent évidemment pas vivre dans Paris, en fait. Et du coup, eux aussi, ils adoreraient faire du vélo et venir travailler en vélo, mais simplement, ils sont obligés d'habiter à 45 minutes, une heure, quand il n'y a pas de bouchons. Et donc, du coup, quand il y a des bouchons, de partir à 6 heures du mat pour pouvoir aller être au bureau à 8h30 ou à 9h. Et ça, pour revenir et pour reboucler sur ce que vous disiez, ça oppose aussi, j'ai l'impression.
Oui, ça produit des formes d'opposition... Qui sont extrêmement problématiques. La crise des gilets jaunes et le fait que, par exemple, elle a été initiée par une taxe sur le diesel, c'est un autre moment fort de cette... Ce sont des occasions, vous parliez des pistes cyclables, mais voilà, cette taxe sur le diesel, ce sont des occasions où on comprend qu'il peut y avoir une forte tension entre le social et l'écologie. C'est pas une tension qui est très facile à résoudre, mais je pense que là aussi derrière la question fondamentale qui à mon sens n'est pas posée par les partis de gauche aujourd'hui, c'est la question de la production de richesse. En fait, l'angle mort, enfin à mon sens ce que promet la droite et que ne promet pas la gauche, et qui fait que la droite est plus populaire que la gauche, c'est qu'elle promet l'enrichissement. Or, il me semble que si vous avez une sensibilité écologique ou de gauche, vous avez la possibilité de parler d'enrichissement différemment. C'est-à-dire, admettons... Enfin, moi, j'aimerais bien que quelqu'un, qu'un politicien ou une politicienne de gauche surgisse et dise « Bon, écoutez, voilà, on va s'enrichir. » On va produire des richesses. On ne va pas parler d'impôts, de taxation. C'est-à-dire, parce que la taxation, c'est secondaire. C'est une fois qu'on a produit, comment on partage, comment on redistribue. C'est nécessaire de se poser cette question. Mais c'est très insuffisant. La question, c'est qu'est-ce qu'on produit ? Par exemple, politique agricole. On produit quoi ? On a un territoire absolument extraordinaire. On produit en intensif. On essaye de raconter une autre histoire. Quels sont les types d'exploitation qu'on subventionne ? Aujourd'hui, on a enlevé toutes les aides pour la transition vers l'agriculture biologique ou la permaculture ou la sylviculture. Il n'en existe plus. Les aides vont à l'intensif. Est-ce que c'est ça qu'on veut produire ? Et cette question de la richesse qu'on a envie de produire, elle pourrait emmener beaucoup plus de monde. Si, c'est exactement la même chose que l'avenir désirable. Pour les classes populaires, ce qui est désirable, c'est un enrichissement. La question, c'est qu'il y a plusieurs manières de s'enrichir. Et donc, si on rentrait un petit peu, si on ouvrait un peu le capot de l'économie et qu'on se posait assez intensément la question des richesses qu'on a envie de produire, on pourrait redessiner un petit peu la carte, à mon sens, avec une aspiration commune qui emmènerait tout le monde. Parce que, en gros, aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne met l'écologie à la portée que de ceux qui ont un pouvoir d'achat suffisant pour payer ce qu'elle coûte en plus, pour payer son surcoût. Donc c'est un coût de plus, l'écologie. Alors que ça pourrait être envisagé comme une opportunité. Vous voyez, c'était une opportunité de déployer de nouvelles activités. Donc, avec des projets agricoles, des projets industriels, mais aussi assez largement des projets de services, parce qu'une grande piste quand même, c'est de s'enrichir par une économie de l'immatériel qui serait un peu moins impactante pour les écosystèmes terrestres. On pourrait imaginer de redéployer les aides, les subventions, les incitations à les investissements, les incitations à la création d'entreprises, vers des formes de création de richesses un peu différentes de celles qui sont dominantes aujourd'hui, ou même très différentes. Mais tant que vous ne rentrez pas dans cette question fondamentale qui est « vous avez envie de vous enrichir », vous avez raison, parce que les fins de mois sont difficiles, ou ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous et avec vous pour que ça marche ? Tant qu'on ne se pose pas cette question, si ce qu'on promet, c'est effectivement des bouchons, l'essence plus chère, un pouvoir d'achat qui s'effrite, une alimentation à deux vitesses, une alimentation saine mais chère, et une malbouffe dangereuse qui produit de l'obésité, trop grasse, trop sucrée, mais pas chère, en fait, on ne fait que recréer des aristocraties et c'est très dangereux.
Bon, on espère qu'il y a des politiques de gauche qui vont vous écouter, qui vont nous écouter. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte.
Bon, je crois que ça résulte assez spontanément de ce que je viens de dire. J'aimerais ouvrir la porte à la question de l'idéal, mais l'idéal non pas compris comme quelque chose d'abstrait, comme une valeur flottante et abstraite, mais plutôt comme étant du côté du désir, j'aimerais parallèlement refermer un petit peu la porte à la simple course au profit ou à une forme de matérialisme de courte vue. Qui ne fait en fait que produire de l'inégalité et un désastre du point de vue des écosystèmes.
Parfait. Merci beaucoup Alexandre.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast.